Mesdames et messieurs les journalistes des médias publics et privés, je voudrais tout d'abord formuler pour vous, vos familles respectives et les médias que chacun et chacune de vous représente ici, les vœux de bonnes et heureuses années pour l'année 2020. Je voudrais ensuite vous dire que c'est un réel plaisir pour moi de vous rencontrer aujourd'hui pour vous faire un bref compte-rendu de ce que nous avons été amenés à poser comme acte tout au long de notre mandature qui a duré 6 ans, qui devrait durer 5 ans. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, la mandature a duré 6 ans et j'ai pu vous dire que ce n'est pas sans difficulté et nous avons été amenés à fonctionner pour des raisons que je vous dirai tout à l'heure dans les détails. D'abord, la nature de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, n'est-ce pas, qui a fonctionné pendant les 6 années qui se sont écoulées, a été une assemblée très, très, très difficile à gérer. La raison à cela, c'est qu'elle était très diversifiée. Une assemblée de 114 députés, dont 113 seulement, ont siégé. Le 114e ayant estimé qu'il n'y avait aucune raison que lui se mette au niveau de la nation qui est la sienne, a préféré démissionner, avec beaucoup d'honnêteté d'ailleurs, parce que certains par la suite ont démissionné de manière indirecte dans la mesure où ils ne siégeaient pratiquement pas. Alors, sur les 113 députés qui ont siégé, il y avait 59 de la mouvance et 54 de l'opposition. Donc, une assemblée avec une mouvance relativement faible, avec 59 députés seulement, et une opposition très forte qui avait une minorité de blocage, comme le disent certains spécialistes, qui rendait cette assemblée excessivement difficile à gérer. Ces 113 députés étaient issus de 15 partis. C'est donc dire la diversité que constituaient, n'est-ce pas, les origines des différents représentants de l'Assemblée nationale. Permettez-moi de vous dire que pendant ces 6 années, nous avons représenté au sein de cette institution le peuple duquel nous sommes issus, à la mesure où ce peuple consulté nous a donné son suffrage direct. Donc, c'est ce peuple que nous représentons ici. La deuxième fonction que nous avons eu à exercer, la première fonction étant la fonction de représentation, la deuxième fonction, c'est la fonction d'élaboration, d'examen et de vote des lois dont le projet nous était, n'est-ce pas, transmis par le pouvoir exécutif ou parfois les propositions qui nous sont venues des députés pour les examiner et les adopter. En second lieu, je voudrais vous dire que quand nous sommes arrivés dans cette enceinte, nous avons été confrontés à une réelle difficulté dans la mesure où les infrastructures affectées à notre institution pour son fonctionnement étaient pratiquement dévastées. Compte tenu de cela, il a fallu prendre des dispositions pour procéder à des travaux de rénovation. C'est ainsi que nous avons rénové l'hémicycle qui était pratiquement, n'est-ce pas, en état de ruine. Ensuite, il fallait rénover certains bureaux, certaines salles qui étaient en état de dégradation avancée. Et vous savez, pour cela, l'Assemblée nationale de la République de Guinée n'a pas de budget d'investissement. Nous avons un budget de fonctionnement dans lequel nous puisons pour permettre à l'institution de vivre pratiquement au jour le jour. Mais c'est un budget de fonctionnement que nous avons. On n'a pas de budget d'investissement. Donc, on était confronté à une difficulté très sérieuse, mais où trouver de l'argent mobilisable à moyen et à long terme pour faire face à ces dépenses d'investissement. Alors, les députés ont vite réagi en disant, mais si nous attendons d'avoir des ressources à moyen et à long terme, nous ne pourrons jamais faire des travaux de rénovation et pratiquement de construction de certains emplacements que nous devons disposer pour loger les uns et les autres, les députés, les 113 députés que nous avons sur les bras. Si ce n'est les 113 députés, mais au moins les membres des différentes commissions, les présidents des groupes parlementaires, certains députés auxquels il faut affecter des bureaux, etc., etc. Alors les députés ont trouvé un truc qui a consisté à faire préfinancer ces dépenses pour certaines par les investisseurs qui ont prêté à l'Assemblée en préfinançant, pour d'autres par les prestataires de services n'est-ce pas, qui ont préfinancé. Cela nous a valu, de contracter une dette assez importante que nous avons été amenés à payer tout au long de la mandature. À ce jour, tous ces prestataires de services, tous ces fournisseurs ont été intégralement payés. Donc, nous sommes au terme de notre mandat. Nous ne devons rien à personne. Si demain, vous entendez certains s'agiter en disant « Ah, l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, qui était là tout au long des 6 années qui viennent de s'écouler, nous doit tel montant », ça ne relève de rien du tout. C'est parce que tout simplement, il y a de cela, n'est-ce pas, un certain temps, un s'est érigé en fournisseur, en faux fournisseur, en faux prestataire de services, pour demander un montant dont on n'a jamais vu l'origine à travers, n'est-ce pas, des documents juridiques, n'est-ce pas, qui engagent l'Assemblée. Donc, bref, je voudrais vous dire que nous avons terminé notre mandat en ne devant rien à personne. Alors, lorsque nous sommes arrivés, l'institution qui nous a précédés dans cette fonction ici s'appelait le CNT. Nous avons, je ne sais pas si on a des membres du CNT parmi nous, le CNT a fonctionné comme ça. On continue à fonctionner avec un règlement intérieur qui datait de 1991, je crois. Ce règlement intérieur au contenu, n'est-ce pas, dépassé, nous posait beaucoup de problèmes. Donc, il fallait tout faire pour adopter un nouveau règlement intérieur. Ensuite, il n'y avait pas de règlement administratif. Il n'y avait pas de règlement financier. Il n'y avait pas de statut du personnel, pas de cadre organique, pas de manière de procédure. Il a donc fallu prendre des dispositions pour essayer de rédiger ces textes structurants, de les soumettre au bureau afin d'apporter des amendements et de les adopter. Le règlement intérieur qui a été adopté l'a été pratiquement à l'unanimité des députés présents ce jour à l'hémicycle, alors que c'était une loi organique. Donc c'est la preuve que malgré qu'on avait une opposition très forte, très contestataire, ça nous a beaucoup aidé d'ailleurs parce que avec une opposition qui avait cette minorité de blocage qui était très forte, ça nous a obligé de faire attention, de passer très souvent au crible des analyses, chaque texte avant de le faire passer et d'argumenter pour que nos collègues de l'opposition comprennent que ce travail que nous faisions, c'était un travail dans le but de faire en sorte que nous puissions préserver l'intérêt supérieur de la nation, l'intérêt supérieur du peuple, dont nous étions les représentants au sein de l'institution. Et je vous le dirai tout à l'heure, nous avons été amenés à adopter 6 textes organiques comme ça, ce qui a quand même été extraordinaire, parce que beaucoup de textes qui étaient des textes organiques, on n'était pas sûr qu'ils passeraient. Mais il faut dire que l'opposition a joué le jeu pour faire en sorte que nous puissions travailler ensemble dans le but de préserver l'intérêt supérieur du peuple. Que ce soit le règlement intérieur, que ce soit le règlement administratif, que ce soit le règlement financier, que ce soit le statut du personnel et le cadre organique, nous avons pu faire adopter tous ces textes. Le seul texte que nous avons mis de côté, c'était un objectif qu'il fallait que nous atteignions. Mais on l'a mis de côté parce que ces textes ainsi élaborés en partie par une expertise extérieure, et vous savez, très souvent quand vous amenez l'expertise extérieure, pendant le travail qu'ils font pour vous proposer les résultats de leur travail, ils ont tendance à s'inspirer un peu de ce qui prévaut ailleurs. C'est cette raison qui a fait qu'au dernier moment, on s'est rendu compte que la manière de procédure avait un contenu qui s'appliquait plutôt à une institution de nature privée et que par conséquent, nous ne pouvions pas le faire passer comme ça. Il faut nécessairement qu'on le retravaille pour l'adapter à une institution de gestion publique. C'est ce qui fait que c'est le seul texte qu'on n'a pas été amené à signer. Mais sinon, tous les autres textes sont adoptés par la plénière du jour où nous avons examiné les règlements intérieurs à l'hémicycle et adoptés au niveau du bureau. Tous ces textes ont été signés et approuvés et signés, et c'est à l'aide de ces textes que l'institution que nous avons gérée pendant ce temps-là fonctionne actuellement. Alors, au niveau de la communication, parce qu'une institution de ce genre a besoin d'avoir une communication performante. Je dois vous avouer que lorsque nous sommes arrivés, il y avait un conseiller chargé des relations avec, je crois, la presse, mais qui ne fonctionnait pas comme une véritable service de communication. Il a donc fallu qu'on se penche sur cette fonction, qu'on la restructure et que nous essayons de faire en sorte que dans ce durant ce temps, nous puissions faire en sorte que l'Assemblée puisse être audible. Et je crois, entre le moment où nous sommes arrivés et on n'avait trouvé aucune organisation efficace en place, et le temps qui a passé après, je crois que tout ce que nous posions comme acte ici était, n'est-ce pas, connu en temps réel par tous ceux qui cherchaient à s'informer sur le fonctionnement de cette institution. Ensuite, nous avons hérité d'un personnel peu formé. Il fallait donc prendre des dispositions pour trouver le financement afin de former le personnel de l'administration parlementaire. Et ensuite, les députés, sur les 113 députés que nous étions, seulement 9 avaient l'expérience parlementaire. Donc, tous les autres travaillaient comme députés, n'est-ce pas, pour la première fois. Il fallait donc prendre des dispositions vraiment pour les former. Cela, nous avons obtenu des financements auprès des partenaires techniques et financiers, notamment le PNUD et l'USAID, l'Union européenne. Bref, tous les partenaires techniques et financiers qui étaient intéressés pour aider, n'est-ce pas, la nouvelle assemblée. Alors, au niveau de la fonction communication, il y a quelque chose que j'ai oublié, c'est la radio parlementaire. Quand nous sommes arrivés, tout ce que nous faisions, dans un premier temps, n'était pas su par le peuple que nous représentons. Parce que la RTG, je crois qu'elle est représentée à cette conférence de presse, faisait ce qu'elle pouvait. Comme moi, je suis un homme très difficile, j'ai trouvé qu'elle ne faisait pas assez. Donc, avec les collègues du bureau, on a fait ce qu'on a pu pour obtenir de l'Union européenne et de la population française un financement pour installer la radio du Parlement afin que tout ce que nous faisons ici soit vraiment communiqué en temps réel au peuple. Donc, cette radio a commencé à fonctionner, je crois, 2 ans après notre arrivée. Et aujourd'hui, au niveau de la communication, elle nous aide beaucoup. Enfin, bref, je reviens au niveau de la formation. Non seulement il fallait former les personnels de l'administration parlementaire, mais il fallait former les députés qui n'avaient pas d'expérience. Et nous avons pensé que ce qui convenait à ce nombre de parlementaires qui venaient d'être installés, c'était la formation sur le tas, la formation pratique qui a consisté à aller, n'est-ce pas, en voyage d'études au niveau des différentes assemblées, l'Assemblée nationale du Sénégal, celle du Mali, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale française. Les femmes ont tenu à ce qu'on aille jusqu'au Rwanda pour la simple raison que là-bas, c'est une femme qui dirige, qui est présidente de l'Assemblée nationale, premièrement. Et en second lieu, parce que c'est l'Assemblée, quoique c'est la seule Assemblée africaine pour le moment, n'est-ce pas, où les députés sont en majorité des femmes. Donc, nos femmes députées ont mis la pression et nous avons été amenés à les envoyer là-bas pour voir comment ça fonctionne sur le tas. Je crois que ça a beaucoup aidé parce que beaucoup de nos femmes députées, et par la suite, se sont investies comme il fallait pour participer effectivement au travail de fonctionnement de cette assemblée, au point que certains ont été reconduites, sont appelés à être députés dans la 9e législature. Parmi lesquels il y a une femme tête de liste, n'est-ce pas, docteur Zarika Diallo, que vous connaissez. Alors, le 7e aspect que je voudrais aborder avec vous, peut-être que nous allons passer en revue de manière plus profonde à travers les questions que j'allais poser, c'est la gestion de l'équilibre au niveau de cette assemblée, qui était pratiquement une assemblée équilibrée du point de vue répartition de l'effectif entre les deux familles, entre les deux familles politiques, c'est-à-dire la mouvance de gauche et ceux du centre, et puis de l'opposition pure et dure, de l'opposition radicale. Je vous assure, cela nous a beaucoup aidé. La manière d'aborder la gestion de chaque député pris individuellement et de l'ensemble des députés qui constituaient ce collectif-là nous a aidé. Comment ? Dans mon tout premier discours, au cours de l'installation, j'ai pris l'engagement d'être un président arbitre, un président équilibré dans la gestion des humeurs des uns et des autres. Je me suis livré, n'est-ce pas, à cette tâche qui, je crois, nous a aidés. Mais je crois que j'ai beaucoup été aidé, d'abord par les collègues députés eux-mêmes, qui très souvent, lorsque je prenais une décision, malgré qu'ils comprenaient que c'était dans le sens d'être équilibré dans la gestion des susceptibilités des humeurs, n'était pas tout à fait la décision qu'il fallait que je prenne. Ils m'ont aidé à faire en sorte que la décision soit acceptée. Je vous assure, je souhaiterais, hein, messieurs les journalistes, qu'un certain nombre d'entre vous deviennent députés demain et président de l'Assemblée nationale dans ce pays qu'est la Guinée. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas du tout une tâche facile. Alors, lorsque vous donnez la parole à l'hémicycle, à un député qui croit qu'il doit parler, il est le seul à parler, alors que les autres attendent d'intervenir. Lui s'imagine que c'est lui qui parle et personne ne va lui retirer la parole, même le président qui est là comme arbitre, n'est-ce pas, qui gère le fonctionnement, n'est-ce pas, interne de l'hémicycle. Donc, quand il épuise son temps de parole, il n'est pas facile de lui retirer la parole. Donc, il a fallu aller méthodiquement. Au début, on avait des problèmes, il n'y avait pas de chronomètre. Mais c'est lorsque je suis allé assister à une des réunions de l'Assemblée de la Francophonie, et c'était à Berne, que j'ai eu la possibilité, avec un député du nom de Dembo, d'acheter un chrono. Et quand nous sommes arrivés, ce chrono, nous l'avons installé, ça nous a beaucoup aidé. Au début, personne ne voulait accepter. Lorsqu'il a la parole, il veut parler, mais il veut parler. Les autres qui sont là, qui veulent intervenir, ce n'est pas son problème. C'est lui qui a la parole. Les autres doivent écouter et le président doit les laisser parler. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, ils ont fini par s'adapter au chronomètre. Et je vous assure, ce n'était pas facile. Alors, les premiers qui vont condamner, c'est les députés de la mouvance. Moi, je viens député de la mouvance, mais c'est ma propre mouvance qui, la première, a réagi en disant « Monsieur le président de l'Assemblée nationale, vous êtes injuste, vous donnez la parole aux gens de l'opposition et vous, vous nous négligez. » J'étais finalement très à l'aise, j'ai dit « Bon, si c'est ma famille politique qui me condamne. » Alors que ceux de gauche, c'est-à-dire les députés de l'opposition, finalement on dit « Ah, on a un président de l'Assemblée nationale qui donne la parole aux gens du RPG arc-en-ciel, aux gens de la mouvance. » Alors dès que cela s'est passé, j'étais vraiment à l'aise. Je me suis rendu compte que j'avais tenu mon engagement d'être équilibré dans la gestion des différentes sessions, n'est-ce pas, que nous gérions ensemble. Alors, nous avons constaté une chose quand nous avons pris fonction avec le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Dr. Bérité, qui est là, c'est qu'il y avait une certaine incohérence du mode de saisine de l'Assemblée nationale par les ministères et de la procédure de promulgation des textes votés. Le mode de saisine de l'Assemblée nationale dans toutes les assemblées du monde, c'est que les députés ne peuvent pas aller directement à l'Assemblée déposer leurs projets de loi qu'ils veulent voir voter par les députés. Ils sont obligés de passer par le pouvoir exécutif. Donc, l'un des ministères est chargé d'assurer du point de vue administratif la gestion des dossiers, les relations entre l'Assemblée nationale et le pouvoir exécutif. Dans la plupart de ces pays, on appelle ce ministère le secrétariat général, n'est-ce pas, du gouvernement, ministre secrétaire général du gouvernement. C'est lui qui reçoit le projet de texte à faire acheminer vers l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce que nous avons trouvé? C'est que les ministres nous saisissaient directement. Alors, tous les textes reçus sous cette forme, nous avons été obligés de les renvoyer au secrétaire général du gouvernement en faisant comprendre aux ministres concernés d'être, n'est-ce pas, en relation directe avec ce ministère. C'est à ce niveau que le texte est travaillé, est préparé pour être soumis, n'est-ce pas, en conseil interministériel, puis en conseil des ministres. Lorsque l'exécutif s'est entendu sur le contenu, c'est en ce moment que lui, il nous saisit par l'intermédiaire du secrétaire général du gouvernement. Nous avons attiré cette attention à l'exécutif et finalement, ils ont compris et nous avons pu fonctionner comme cela se passe dans tous les pays du monde. Ensuite, c'est la promulgation. Dans la promulgation, n'est-ce pas, des textes ou la ratification des textes que nous adoptions ici, dans l'ancienne formulation, ceux qui nous ont précédés ici disaient « L'Assemblée nationale de la République de Guinée, vu, c'est le visa, la loi fondamentale et les lois organiques, après en avoir délibéré conformément à la loi, adopte, c'est-à-dire adopte le texte qui a été étudié, examiné et adopté en plénière. » Et ensuite, il y a une autre mention qui suivait, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Donc, cette formulation, nous avons trouvé qu'elle n'était pas très cohérente, elle n'était pas conforme à ce qui s'est passé ailleurs. Donc, nous avons là apporté, n'est-ce pas, une modification pour être au même niveau que les assemblées des autres pays. Et la nouvelle formulation, qui est celle qui est actuellement en cours, est la suivante. L'Assemblée nationale, vu la Constitution en ses articles, on a cité l'article 72-49 dans le cas d'espèce, après avoir délibéré, a adopté la loi d'orientation ou de ratification. C'est l'Assemblée qui adopte le président après promulgue et, n'est-ce pas, ratifie. Ça, nous taisons ça. Et c'est comme ça que toutes les assemblées nationales du monde fonctionnent. Donc voilà ce que nous avons apporté comme changement à ce niveau. Alors, il y a un problème dont on a beaucoup parlé, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Donc la première fonction d'une assemblée nationale comme la nôtre, premièrement, nous représentons le peuple. Deuxièmement, nous contrôlons l'action du gouvernement. Et troisièmement, évidemment, nous adoptons les lois. Alors, dans le contrôle de l'action du gouvernement, les députés ont été les premiers à se faire entendre en disant « Oui, bon, nous sommes des députés, on ne fait rien, on est là pour contrôler l'action du gouvernement, mais nous ne contrôlons pas. » Mais regardez, voilà ce qui s'est passé. Chaque député, mais j'ai passé mon temps à recevoir des lettres, des demandes d'aller contrôler sur place, n'est-ce pas, le pouvoir exécutif au niveau des différents départements. Nous savons ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé dans la première législature, après le rétablissement de l'ordre constitutionnel, avec comme président de l'Assemblée nationale, le doyen Bureau. Et ensuite, toujours cette deuxième législature, disons après le rétablissement de l'ordre constitutionnel, on se comparait à la première législature, n'est-ce pas, qui a fonctionné ici, sous la Première République. Chaque fois, j'ai eu du mal à faire comprendre aux députés qu'il faut que tout cela soit ordonné. Un député n'est pas pour se lever seul pour aller contrôler l'action du gouvernement sur place. Il faut que cela se fasse en commission. Et il fallait par conséquent qu'on constitue des commissions. Mais on a mis un temps fou pour constituer ces commissions. Finalement, les trois commissions ont été constituées au niveau des groupes parlementaires et c'était pratiquement la veille de la fin de la législature actuelle pour aller contrôler sur place. Donc, puisqu'on ne pouvait pas envoyer des gens pris individuellement pour aller contrôler l'action gouvernementale sur place, nous n'avons pas pu le faire. Les groupes parlementaires ont réagi. Certes, on a constitué les commissions. C'est vrai, mais on était déjà pratiquement en fin de mandat. Donc, il y avait cet aspect, ce n'était pas organisé. Compte tenu de cela, nous ne pouvons pas envoyer des gens pris individuellement pour contrôler l'action gouvernementale sur place. Par contre, quand on parle contrôle, le comptable, parmi vous, il y a peut-être des comptables, savent qu'il n'y a pas que le contrôle sur place. Il y a ce qu'on appelle le contrôle sur pièce. Alors, ce contrôle sur pièce a été fait par les commissions permanentes qui ont parfaitement bien fonctionné sur place ici. Parmi ces commissions, je prends un exemple, c'est la commission économique et financière, la commission du plan. Cette commission, c'est à ce niveau qu'on a obligé pratiquement tous les ministres pris individuellement qui avaient des problèmes financiers à défiler pour qu'on sache qu'est-ce qui se passe au niveau de ce ministère. Et pour les ministères qui génèrent des ressources, est-ce que ces ressources tombent effectivement dans la caisse de l'État? À ce niveau, il y a eu un contrôle en profondeur. Donc, c'est absolument faux de dire que cette législature qui vient de prendre fin, qui va prendre fin quand la nouvelle législature va être installée après l'élection qui va, elle va se passer dans les temps à venir, dans les semaines à venir, lorsque cette nouvelle assemblée va être installée, l'assemblée de la 8e législature va se retirer, mais elle a effectué un contrôle efficace à ce niveau. Au niveau du ministère, de la commission économie, finance, plan, au niveau de la commission des lois, au niveau des autres commissions, le contrôle sur pièce a été effectif. Donc, c'est absolument faux de dire, et c'est dommage de voir ce soit élevé au niveau de nos collègues députés qui ont parlé haut et fort à tous les micros des radios, des télévisions qui sont confiés aux médias en disant que l'Assemblée de la 8e législature ne fait pas de contrôle de l'action gouvernementale. Alors, nous avons tellement réussi dans ce contrôle que tout ce que le Fonds monétaire n'a pas pu imposer au gouvernement guinéen pendant l'autre législature, pendant le CNT, et nous avons réussi à imposer ça au gouvernement, c'est-à-dire l'augmentation des ressources de l'État. On a pu imposer l'augmentation des ressources de l'État au pouvoir exécutif, qui s'est par la suite rendu compte que c'était une bonne action que nous avons menée. Même le Fonds monétaire, à chaque consultation, lorsque cette institution venait contrôler la Guinée, trouvait que toutes les recettes ne tombaient pas dans les caisses de l'État. Donc il faut augmenter les ressources. Ils n'ont pas pu réussir ça. L'Assemblée qui nous a précédés n'a pas réussi, mais nous l'avons réussi. Donc voilà ce sur quoi vous devez normalement avoir une information objective, une information juste. Bon, ensuite, je voudrais insister sur un point. C'est le règlement intérieur qui a été adopté et qui a consacré une disposition particulière aux anciens présidents de l'Assemblée nationale. Nous avons prévu, plus précisément au titre 8 de ce règlement intérieur, nous avons prévu des dispositions pour le statut des anciens présidents de l'Assemblée nationale. C'est le seul pays au monde où, jusqu'à présent, les anciens présidents de l'Assemblée nationale n'ont pas été pris en charge. N'ont pas été pris en charge en leur donnant un minimum qui ne peut pas, même pas rémunérer les services qui sont rendus à l'État. On ne pourra jamais payer le doyen Bureau pour ce qu'il a fait tout au long de son mandat. On ne pourra jamais le faire pour le président de son pari. Mais donc, dans ce règlement intérieur, au titre 8, nous avons prévu des dispositions qui leur donnent un certain nombre d'avantages. Et nous allons faire en sorte que ces avantages deviennent maintenant effectifs. Quand le règlement intérieur a été adopté, ça a pris beaucoup de temps pour sa promulgation. Ensuite, il fallait faire des travaux préliminaires. Il fallait, puisque le règlement intérieur prévoit un texte d'application, ce texte a été adopté et présentement, nous pouvons maintenant consacrer à l'ancien président de l'Assemblée nationale et ayant droit, mais limité dans le temps, des avantages qui vont lui être, n'est-ce pas, reconnus, qui vont également être reconnus à la veuve son pari pendant un certain temps. Donc voilà ce que nous avons fait à ce niveau. Bon, lorsque, bien entendu, nous avons pris fonction, on a adopté un plan quinquennal. Ce plan nous a permis enfin de consacrer un certain nombre d'objectifs à atteindre que nous avons pratiquement tous réalisés, parmi lesquels donc les règlements intérieurs qui a été adopté. Nous avons pris comme objectif le niveau de salaire du personnel de l'administration parlementaire. Le salaire le plus élevé c'était 1 250 000. Je puis vous dire qu'on s'est fixé comme objectif de faire en sorte que le personnel de l'administration parlementaire qui relève de la fonction publique soit le personnel le mieux payé de cette administration. Ils le sont actuellement. On a été embêté ici par, lorsque nous sommes arrivés, des gens qui se disaient, n'est-ce pas, syndiqués dans tel syndicat. C'était même pas vrai. C'était pas vrai. Alors que nous étions en train de nous battre pour les mettre dans les conditions, mais ils ont passé par tous les moyens, un certain nombre d'entre eux, une minorité, pour nous empêcher de fonctionner. Mais bon, très tôt, nous avons compris le jeu et nous avons mis fin à ça. On a travaillé tranquillement. On a assaini les fichiers du personnel de l'administration parlementaire. Nous avons pris des dispositions pour leur conférer un statut. Nous avons prévu dans ce plan quinquennal la construction du siège de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, ça a progressé peut-être lentement, mais finalement nous sommes, n'est-ce pas, sur le point d'aboutir aux travaux préliminaires et encore à la partie guinéenne pour que, sous peu de temps, la partie chinoise revienne afin que nous puissions, afin, quand je dis nous, la nouvelle Assemblée, puisse poser la première pierre. On est très avancé. Il faudrait peut-être faire en sorte que la presse puisse avoir la vidéo sur la maquette, n'est-ce pas, du futur siège, du futur palais de l'Assemblée nationale. Voilà, en gros, mon message que je tenais à livrer. Mais je puis vous dire que je remercie honnêtement M. le Président de la République pour m'avoir chargé de défendre les couleurs, les drapeaux du parti, n'est-ce pas, qui a fait de moi député, c'est-à-dire le RPG Arc-en-Ciel, pour les élections qui ont suivi au suffrage indirect pour élire le président de l'Assemblée nationale. Alors, Monsieur le Président a trouvé que c'est moi qui devais défendre ces couleurs. À l'époque, j'avais beaucoup d'appréhension. D'abord parce que je n'avais jamais été député de ma vie. Et ensuite, c'est un domaine dans lequel je n'avais pas beaucoup d'expérience parce que économiste de formation, banquier, de spécialisation théorique dans une grande école et pratique sur le tas, j'ai passé toute ma vie dans les banques. Mais lorsque j'ai été informé que je devais défendre les couleurs du RPG Arc-en-Ciel pour le perchoir, je suis allé sur le site des assemblées d'autres pays pour voir comment fonctionne une assemblée nationale. Donc, il fallait que je me soumette à une auto-formation pour que l'adaptation à ce nouveau poste de responsabilité ne prenne pas trop de temps. Donc j'ai été amené à juger tout ça pour savoir comment fonctionne une assemblée nationale normale. Alors je voudrais profiter de cette occasion pour vous dire que un président d'assemblée nationale, ça ne s'improvise pas comme ça. Hein. Dans tous les régimes et dans tous les pays du monde, le président de la République qui a la majorité à l'assemblée nationale intervient pour faire en sorte que celui qui sera à l'assemblée nationale puisse vraiment servir habilement, efficacement, honnêtement et loyalement le pays. Donc, lorsque je vous écoutais parfois, messieurs, mesdames les journalistes, « Ah, mais bon, le président de l'Assemblée nationale, lui, il doit être un homme indépendant. Mais le président de l'Assemblée nationale, il ne faut pas que ce soit quelque chose de potiche, un élément potiche, tout ça, qui n'obéit, etc. et tout ça. » Ça ne se passe pas comme ça. Je prends un exemple que je connais très bien. C'est l'exemple du président de la République du pays de l'époque. Un certain nombre d'entre vous n'étaient pas nés. Bon, nous, on était nés, mais on était mineurs. Hein? Et qui, suite à la constitution qu'ils ont adoptée, les Français, en 1958, il est monté au pouvoir. Bon, il a choisi celui qui devait être le président de l'Assemblée nationale française, Chaban Delmas, qui est resté avec lui tout au long du temps qu'il a passé là-bas. Et après son décès, Pompidou est venu, celui qui l'a remplacé. Il a continué avec le même président de l'Assemblée nationale. C'est pour vous dire que c'est lorsqu'il y a cohabitation, parce que vous, journalistes dans ce pays-là, vous vous situez dans la logique de la cohabitation. C'est-à-dire, dans la cohabitation, c'est quoi? C'est lorsque le parti d'opposition qui est au pouvoir, suite à une élection organisée, arrive avec sa majorité à l'Assemblée nationale, alors que cette mouvance qui avait donc la majorité à l'époque a perdu la majorité. Donc, le premier ministre qui vient à l'Assemblée avec sa mouvance cohabite avec un président élu par l'ancienne majorité qui est là. Lorsqu'il y a ça, le président de l'Assemblée nationale qui vient donc de cette opposition qui est arrivée avec la majorité à l'Assemblée nationale, ce président-là fait le jeu du premier ministre qui est là-bas. Ils travaillent, ils font équipe. Ils font équipe. Moi, j'ai fonctionné en étant équilibré dans la gestion de cette assemblée, tant dans mes rapports avec ceux de la mouvance d'où je viens que de ceux qui étaient à l'extrême gauche, la gauche radicale, l'opposition radicale et au centre. Et je vous ai dit que j'ai réussi cette approche que je me suis imposée puisque j'ai été critiqué à la fois par l'opposition comme quoi moi j'ai privilégié la mouvance et par la mouvance comme quoi, moi, je privilégiais l'opposition. Donc, voilà un peu ce que je tenais à vous dire. Il y a les détails. Alors, durant cette législature, nous avons été amenés à voter au total 290 textes, parmi lesquels il y a les 6 textes qui ont été les lois organiques. Pour les détails, j'entends souvent dire « Ah, journaliste d'investigation !» Oh, nous avons fait, on a procédé à des investigations, voilà. Mais j'espère qu'après ce petit contact avec nous, vous allez pouvoir entrer en contact avec le directeur de la législation qui est là et le secrétaire général pour avoir les détails sur les textes qui nous ont été amenés à voter tout au long de cette mandature. Je vous remercie de m'avoir écouté.